ma come on a
quand tu dis que la police c'est des chiens, après avoir vu son frère violemment arrêté par les tiens pour quelques grammes de shit, t'en plus jamais la loi des trams. Si l'enfant violé ou bombe dans les métros ou dans les trams, eh flic, quand tu nous agresses verbalement, sans coup boy, sans raison, tu nous cherches généralement. Sans motif valable, on voit rien que derrière les fans que tu envoies. T'attends qu'une chose, c'est que l'un nous perde son sang-froid. Et flic, comprends que ton air supérieur à glace. J'ai la haine quand je vois un frère à moi qui s'est fait ta rage.
Dangerous, dangerous, dangerous.
Voyou, barbare, intégriste, casseur, terroriste, salopard, sauvageon. Est-ce que le compte est bon? Car tout porte à croire que les tiégars ont toute la France contre eux.
Dangerous, dangerous, dangerous.
Au départ à Benoît, c'est pas une nouveauté.
Dangerous.
Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences, on n'a jamais le choix.
Dangerous, dangerous, dangerous.
On est soudés, solides et solidaires.
Encore pire, si c'est là-dedans que je dois m'habituer, c'est là-dedans que j'ai envie de tuer. Est-ce que je demande ma liberté me soit restituée?
Besoin d'évasion, évasion, évasion, effort d'imagination. Ici tout est gris, les murs, les esprits, les rats la nuit. On veut s'échapper de la prison.
Je dois m'évader, ça c'est déjà fait, je sais que c'est possible.
Tout démonté, tout brûlé.
Sortez les briquettes, sortez les briquettes.
Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler ce qu'on appelle la lutte anticarcérale.
Bonjour.
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 Vous êtes bien à l'écoute de Radio Kaléidoscope et c'est l'émission Les Murs ont des oreilles. Les Murs ont des oreilles, c'est une émission contre la tôle et contre toutes les formes d'enfermement. Et c'est tous les troisièmes mercredis du mois, de 19h à 20h. Alors aujourd'hui, on va vous parler de différentes choses dans cette émission. On va d'abord revenir sur ce qui s'est passé au centre de détention de Roanne pendant tout l'été. On en avait déjà parlé dans les émissions précédentes. Et notamment, on va lire des bouts de lettres donc de personnes de ce centre de détention. Ensuite, on va aussi parler du CRA, donc du Centre de Rétention Administrative de Marseille, où pareil, pendant l'été, il s'est passé plusieurs choses à l'intérieur et à l'extérieur, avec aussi également des témoignages de personnes enfermées à l'intérieur. Ensuite, on va parler également du Centre de Détention de Bourg-en-Bresse, avec là aussi des témoignages. Et on va parler un peu vite fait de la future loi pénitentiaire que nous prépare la nouvelle ministre de la Justice, Christiane Taubira. Et puis, bien sûr, il va y avoir quelques brèves et de la musique pendant toute cette émission.
Donc, par rapport à Roanne, en fait, là, je vais vous lire un courrier qui a été écrit le 21 juin. Donc, ça commence à faire un petit temps, sauf que la lettre, on l'a récupérée que récemment. Donc, pour rappel, en fait, il y a eu pas mal d'agitation au centre de détention de Roanne depuis plusieurs mois. On a relayé les infos qu'on avait de ce qui s'y passait dans les émissions précédentes. Donc on ne va pas revenir en détail là-dessus, mais en tout cas c'est possible de trouver des infos, notamment sur Indie Media, donc qui est un site d'information alternative. Donc la lettre, la voilà. Madame, monsieur, bonjour. Je vous écris ce courrier car la situation du D0 du centre de détention de Roanne, où je suis actuellement incarcérée, est invivable au quotidien. La plupart des surveillants, sans généraliser, sont toujours sur la défensive, avec comme seule optique de toujours prendre le dessus verbalement sur les détenus du D0, parce qu'ayant été au bâtiment E, 3e étage, ces surveillants n'étaient pas du tout comme ça. De plus, je ne suis pas rentrée de permission et depuis, on m'en veut, pour aller à la cabine téléphonique, même en ayant mis le drapeau et sans taper à la porte. C'est toujours pareil, aucune réponse, et après, ils s'étonnent de retrouver des téléphones portables dans les cellules des détenus. Pour laver ses habits, je ne vous en parle pas. Je crois que traverser le Pacifique à la nage serait plus facile. Tout ça, pour vous dire que franchement, là, c'est trop. Au point où j'en suis arrivée à me dire que j'étais bien mieux en maison d'arrêt, alors que logiquement, ça devrait être le contraire. Sur ce, je vous remercie d'avance. Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire ce courrier, parce que la situation se dégrade de jour en jour, et c'est nous qui payons les pots cassés. Voilà. Quelques commentaires par rapport à cette lettre. En fait, les régimes en détention, ils sont différents. Et en centre de détention, en théorie, c'est moins contraignant parce que les cellules sont ouvertes. Sauf qu'à l'intérieur des centres de détention, il peut y avoir des régimes de détention qui sont différents. Et du coup, ça crée des graduations dans l'enfermement. Et ça peut servir de moyen de pression et de sanction sur les prisonniers. Donc plus ou avec les cellules qui peuvent être ouvertes en journée, à moitié ouvertes ou complètement fermées. Et donc le bâtiment en régime fermé, les cellules sont fermées tout le temps et c'est de ça qu'il parle. Il y a aussi des statuts qui sont particuliers et qui sont à peu près équivalents au statut de DPS, c'est-à-dire que un détenu qui a ce statut-là, tous ses déplacements vont se faire avec du personnel surveillant en plus, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur lors de transferts, d'extraction, de soins, etc. Les fouilles sont systématiques et sont plus poussées. Il n'y a pas le même accès à des formations, des activités, etc. Donc c'est autant de cas particuliers qui permettent de mettre la trique à quelqu'un et de servir de menace à tous les autres. Mais c'est pas pour autant que les gens se résignent. Donc en fait, dans cette lettre, il parle aussi de l'accès au téléphone en cabine. Donc on peut préciser en fait que c'est cher, d'une part, que c'est aussi possible que par rapport à certains numéros, donc il faut demander une autorisation à l'administration pénitentiaire pour pouvoir appeler certains numéros, et qu'en plus, la paix, elle contrôle ces communications parce que toutes les conversations, elles sont écoutées. Du coup, même si l'accès à la cabine était simple, parce que là, en fait, il explique que donc quand il veut aller à la cabine, il met un petit drapeau sur la porte de la cellule pour que le surveillant y voit qu'il veut aller à la cabine, et que ça arrive assez fréquemment que les surveillants ils fassent comme s'ils n'avaient pas vu en fait qu'il y avait le drapeau. Du coup, les gens ils tapent pour se faire entendre parce qu'en fait, l'accès il est possible que de telle heure à telle heure. Et du coup, si le surveillant il vient pas chercher le prisonnier, ben il peut pas passer son coup de fil et puis voilà. Donc même si en fait c'était un accès qui était correct, entre guillemets, on comprendrait très bien que les prisonniers ils aient des portables, ne serait-ce que pour avoir la possibilité de communiquer avec les personnes avec qui ils souhaitent être en contact ou maintenir un contact au moment où eux, ils le veulent et sans être constamment épiés par l'administration pénitentiaire. Parce qu'en fait, les liens avec les proches, ils sont complètement abîmés par l'enfermement, par la détention. Et si les communications téléphoniques, elles permettent une bouffée d'air et des moments de proximité, en plus des miettes qui sont laissées seulement au moment des parloirs, et que ça échappe à l'administration pénitentiaire, tant mieux.
Ouais, sur ce truc des téléphones portables en prison aussi, je voulais rebondir parce que donc il y a eu quelques articles là qui sont sortis dans la presse récemment sur cette question-là. Et où du coup, les journalistes disent qu'il y a plein de téléphones portables en prison, et alors que c'est un objet interdit et tout ça. Et eux, ils relayent le discours des matons de dire que de toute façon c'est interdit et que c'est scandaleux et que les prisons sont des passoires, nanana. Mais bon, du coup, nous, on trouve ça assez classe que les personnes arrivent à se procurer des téléphones portables en prison pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Et aussi pour d'autres raisons, que par exemple, là, dans certains événements qui se sont produits à l'intérieur de prisons ou de CRA ou d'endroits d'enfermement, souvent le fait qu'il y ait des téléphones portables à l'intérieur, ça a permis de faire sortir des infos, que ce soit en appelant des personnes à l'extérieur ou en prenant des vidéos ou des photos de ce qui se passe. Et du coup, voilà, c'est aussi une des utilités que peuvent avoir cet outil technologique. Mais sachant que quand même le téléphone portable, ça reste aussi un moyen d'espionner les gens et qu'à l'intérieur comme à l'extérieur, Et ben les flics, dès qu'ils peuvent, ils mettent des personnes sur écoute, ils suivent les conversations qu'ils ont, leur réseau de contacts et tout ça. Et notamment dans un des articles là, qui est sorti sur Le Monde, ils expliquent que des fois, les flics laissent les personnes à l'intérieur des prisons avoir des téléphones pour pouvoir suivre leurs conversations et du coup, évidemment, se servir de ça lors de leur procès ou lors de leur procédure. Voilà, du coup, pour dire que le téléphone portable, c'est un truc qui peut être à double tranchant, que ça peut être très utile pour garder du lien humain avec les personnes à l'extérieur ou comme aussi une arme de défense contre la paix, mais que ça peut aussi être utilisé par les keufs contre nous, quoi.
Moi, je voulais revenir aussi sur un truc qui est évoqué dans cette lettre. C'est le fait que les surveillants sont sur la défensive avec comme optique de prendre le dessus verbalement sur les détenus. C'est des choses qui ont été évoquées aussi dans des lettres qui sont sorties et qui parlaient du climat tendu à Roanne. Et puis en fait, avoir le dessus, c'est pas seulement verbalement. On a entendu parler d'histoires de provocations vraiment délibérées, où des surveillants font exprès de mal parler à des détenus, de se mettre dans un rapport physique qui appelle à la confrontation. Et s'il y a des coups qui partent, les surveillants, ils portent plainte pour agression, ils demandent des dommages et intérêts que la justice leur accorde en général. Et ça veut dire évidemment pas qu'il faudrait s'écraser devant eux, bien au contraire, mais plutôt avoir en tête le fait qu'ils peuvent tendre des pièges et que ça en fait partie, et que donc il faut trouver différentes manières de leur résister. Par exemple, il y a une histoire dont on a entendu parler qui s'est passée là-bas, mais qui pourrait se passer n'importe où. C'est celle d'un prisonnier qui passe dans un couloir. Un surveillant lui met un gros coup d'épaule au moment où il passe pour le provoquer. Lui, il répond pas. Mais en fait, le surveillant, il porte plainte contre lui. Et au moment où les keufs viennent pour enregistrer la plainte, ils regardent les bandes de vidéosurveillance, parce qu'il y a des caméras de vidéosurveillance un peu partout à l'intérieur des prisons. Et sur les images, on voit très nettement que c'est le surveillant, en fait, qui a... On voit ce que le surveillant a fait. Et du coup, l'affaire, elle est classée sans suite. Sauf que, entre-temps, le prisonnier, lui, il s'est pris un mois de mitard. Il a perdu ses remises de peine et ça fait concrètement qu'il a fait 2 mois de prison en plus. Là, ce qui se passe en plus, c'est qu'en sortant du mitard, les prisonniers ils se retrouvent en régime fermé. Donc c'est ce régime de détention spécial dont on parle avant et dont il est question dans cette lettre, où on est avec cellule fermée en journée. Du coup, des histoires comme ça, elles permettent aussi de comprendre la tension qui peut s'accumuler, la rage et la haine aussi. Et le fait que, qu'après, dans un climat tendu comme ça, il y a tout qui peut partir pour un détail. Parce que si le fait d'être enfermé, c'est insupportable, l'enfermement, c'est pas uniquement la privation de liberté, mais c'est aussi une accumulation de la privation de plein d'autres choses. Et du coup, ça signifie d'avoir accumulé un paquet de situations qui donnent envie tout simplement de se venger. Cette lettre, elle a été écrite au mois de juin. Et du coup, après, au mois de juillet, il y a eu le blocage de promenade dont on avait parlé déjà et qui a été pas mal relayé au dehors. Donc, un blocage de promenade qui a été filmé, une vidéo qui a circulé à l'extérieur avec une lettre aussi qui l'accompagnait. On ne va pas revenir là-dessus précisément parce qu'on en a déjà parlé, mais par contre, on voulait parler un peu de ce qui s'est passé par la suite. Donc, apparemment, en fait, tout de suite après ce blocage, donc on voit que les surveillants ils ont réagi de manière super violente vis-à-vis des détenus qui étaient dans la cour de promenade. Ils ont foncé sur eux, donc ils s'y attendaient pas forcément, ou en tout cas pas une réaction de cette nature-là ou à cette hauteur de violence-là. Et du coup, les 4 personnes qui étaient en promenade ont été amenées au mitard en se faisant cogner la tête sur toutes les portes en montant. Et ensuite, quand ils étaient au mitard, apparemment, il y avait 2 équipes de surveillants qui se sont relayées là-bas. Donc, une première qui faisait, entre guillemets, juste son travail, et c'est déjà une sacrée merde, et une autre qui leur a vraiment mis la misère. Donc, par exemple, en tapant sur les portes quand ils dormaient, en coupant l'eau, etc. Ils ont été salement tabassés, ils ont pris 20 jours de mitard. Il y a une personne des 4 qui a pris 30 jours. Parce qu'il a été accusé d'avoir agressé les surveillants. Et les suites qu'il y a, c'est par exemple des fouilles particulières, plus systématiques, parce qu'il faut savoir que, par exemple, le système de fouilles généralisé avant les parloirs, il n'est plus en cours pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, mais que pour l'instant, c'est des fouilles qui sont plus ciblées. Donc aléatoire vis-à-vis de certaines personnes. Et ben, quand les surveillants ils ont un prisonnier dans le collimateur, ben, il va se taper des fouilles plus facilement que d'autres personnes. Mais on sait qu'il n'y a pas eu de plainte en justice qui ont été déposées contre les personnes qui avaient fait le blocage de promenade, ce qui aurait pu être le cas, même si ça paraît complètement hallucinant. Ben, d'une part parce que apparemment les matons n'ont pas du tout respecté la procédure qu'ils avaient à suivre lors de leur intervention, et d'autre part peut-être aussi parce qu'il y a eu pas mal de barouf autour de ça. Et notamment par rapport à ce qu'il y a eu autour de ça, on voulait relayer un peu une info dont on a entendu qu'on a eu sur Rebellion, donc un site d'information indépendante et alternative. C'est le fait qu'il y a eu à Lyon cet été une balade en solidarité avec les prisonniers. Donc voilà le compte-rendu qu'on peut lire sur ce site internet. Donc lundi 30 juillet, en début d'après-midi, un groupe d'une quinzaine de personnes a traversé le quartier de la Guillotière à Lyon en distribuant des tracts et en collant des affiches en solidarité avec les détenus qui luttent actuellement dans différentes prisons, plus particulièrement par rapport aux différentes formes de révolte qui ont eu lieu récemment à Roanne, mais aussi à Toulouse. Des tags ont été faits dans le quartier, pendons les matons, feu aux prisons, all cops are bastards, donc tous les flics sont des bâtards, etc. Tout ça dans une ambiance tranquille et avec la sympathie ou l'intérêt des nombreuses personnes croisées. Ensuite, les personnes se sont retrouvées devant le bâtiment du SPIP, donc c'est le service pénitentiaire d'insertion et de probation, situé quai Claude Bernard. Ces services s'occupent entre autres de la partie sociale, entre guillemets, de ce qui se passe en tôle, et aussi de tout ce qui touche à l'insertion et au contrôle social lors de la sortie. Là, une banderole a été déroulée qui disait « Solidarité avec les prisonniers en lutte ». Le hall d'entrée extérieure de ce grand bâtiment a été aspergé de liquides malodorants et tachants et de fruits et légumes pourris qui ont été déversés au sol. Puis des pétards ont explosé, on a entendu des slogans qui disaient « Ni fric, ni flic, ni spip, ni maton, solidarité avec les prisonniers en lutte, nique la tôle ». La devanture du bâtiment a ensuite été recouverte de peinture et de tags disant entre autres « Mort au port »,« Boyer dégage », »,« Boyer est le directeur du centre de détention de Roanne », Crève collabo, et de la peinture a aussi été projetée à travers les fenêtres des bureaux. La petite troupe est repartie sans problème, laissant la devanture dans un état moins sale que le boulot que font ceux qui y travaillent, mais quand même bien trashé. Voilà, donc on avait envie de partager cette info qui nous a fait plaisir. Et le contenu du tract qui a été distribué est disponible sur le site internet que j'ai cité avant. Et on voulait aussi parler d'un truc qu'on a trouvé sur la presse locale de Roanne, qui dit que le 21 août, la façade du tribunal de Roanne a été taguée. Donc l'article dit « Un nouvel événement qui, selon le procureur Vincent Augier, est, entre guillemets, probablement lié au récent incident survenu au centre de détention de Roanne ». On pouvait clairement lire sur le mur un avertissement destiné à un surveillant du centre de détention. Feu aux prisons, V, trois petits points, tu veux des balances, tu n'auras que notre haine. Voilà. Donc là-dessus, on peut souligner le lien qui existe très clair entre la justice et la prison, qui se nourrissent l'une de l'autre. Et on voulait remarquer, enfin faire une remarque aussi au sujet de la question des balances, parce que c'est une des manières de casser les luttes, c'est-à-dire d'isoler les personnes ou de chercher à isoler les personnes, de chercher des poucaves en leur faisant miroiter les avantages qu'ils pourraient avoir à balancer les autres. Et on espère que les matons et que les flics en tout genre, là-bas et ailleurs, se casseront les dents dans leur recherche de poucaves.
Voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur la situation à Roanne. On va enchaîner avec une petite musique hier avant de parler du CRA de Marseille. Donc c'est une chanson tirée de la mixtape La Ligue des MC Révolutionnaires. Le groupe c'est Vermine et la chanson s'appelle Révolutionnaire et c'est en hommage à Charlie Bois.
Le système qu'ils mettent en place, que ce soit de droite ou de gauche, est un système que j'aborde. Un système que je critique de façon très 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 radicale, parce qu'il est pervers, parce qu'il produit 8 millions de, en France j'entends, 8 millions d'individus en situation de précarité.
Besoin d'être révolutionnaire quand je vois l'espèce humaine et son évolution de merde, on est les spécimens de la décadence venue du sommet.
possédé d'une rage sommaire, étouffé par les intérêts des actionnaires qui poussent à consommer. Besoin de défendre des putains de causes, tenter d'éveiller les consciences. Même perdu d'avant, je reste militant, je vois pas d'autre but à l'existence. C'est en tant que résistant que je trace ma route depuis la liberté, c'est fait distancer. Ce sentiment de révolte, bah je peux plus m'en dispenser, car il m'aide à voir clairement ce qu'on m'a dit de penser. J'aime à croire que je me pars du pouvoir, désolé d'insister, de crier que je suis pas un assisté. Moi je reste un être à part, pas un de vos produits financiers. C'est temps-ci, la chasse est lancée, je me range pas du côté des nantis, ni de celui des banquiers. Je combats pour ma survie, ouais je m'assure tout en restant intime, contenté de peu pour rien envie, toujours construire en restant inventif. Donc j'avance fils, sans rester insensible, dans l'attente que ça change, mon combat reste intensif. J'avance fils, sans rester insensible, dans l'attente que ça change, mon combat reste intensif.
Dans révolution il y a évolution, et je lutte, je me bats pour l'évolution de l'humanité et ma propre évolution.
MC révolutionnaire, parce qu'on évolue sans maître, parce qu'on a voulu s'y mettre, mais dans ce désert on n'a pas fait s'y mettre. Au milieu des consciences inertes, on vient s'immiscer, militer parce qu'on s'en s'y bête de rien initier. Mon compte difficile, s'y confronter paraît difficile, moins facile de s'unir que de se diviser. Notre rôle de combattant, pas prêt d'en déroger à chaque loi liberticide, on prend le mic ici, exprime les rejets.
Dès lors où un individu évolue, lui-même étant la représentation de l'humanité, c'est l'humanité entière qui évolue. Je me bats pour ça, et ça s'appelle la révolution.
Je voltais à la base, bien loin des sommets, je m'en bats à la race, pas la motive de taper l'escalade. Et puis je préfère grogner, opprimer et exclure. J'ai un con déprimé au bord des luttes, petites gens déprimés qui évoluent loin en dehors des flux. Nous ne sommes pas qu'un marché, nous ne sommes pas juste une masse bruyante, un culte consommateur, manœuvre docile ou bien futur client. Nous ne sommes pas juste un compte en banque à dépouiller, nous ne sommes pas seulement des chômeurs qui n'ont qu'à être exploités. Ouais, nous sommes plus que ça, plus que des statistiques gouvernementales. Nous sommes toutes ces questions qui ne les intéressent ouvertement pas. On n'a pas attendu le bouquin pour s'indigner, pas attendu le film pour clair devant des tas, sauf surtout ceux qui s'en détaillent. On attend juste l'union des forces qui doit s'épanouir, dévouer à notre cause, éveiller ses consciences qui restent tétanisées. Révolutionnaire, je le suis et je le resterai. Libertaire, car la liberté se doit d'être restaurée. Révolutionnaire, parce qu'on évolue sans maître, parce qu'on a voulu s'y mettre, mais dans ce désert on n'a pas fait s'y mettre. Au milieu des consciences inertes, on vient s'immiscer, militer, parce qu'on s'en s'y bête de rien initier. Ce qu'on difficile, se confronter paraît difficile, moins facile de s'unir que de se diviser. Notre rôle de combattant, pas prêt d'en déroger à chaque loi liberticide, on prend le mic ici, exprime des rejets.
La révolution, c'est pas nécessairement la Kalachnikov, les barricades, non, c'est aussi ça. C'est-à-dire ne pas se suffire des choses acquises, aller toujours au-delà, être critique de l'acquis pour se permettre d'aller au-delà. Être critique de l'histoire qui éclaire le présent et ce présent qui se réfléchit sur le futur. C'est ça, être révolutionnaire.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Les murs ont des oreilles sur Radio Kaléidoscope. Et maintenant, on va vous parler de ce qui s'est passé au centre de rétention administrative du Canet à Marseille. On a pu entendre parler dernièrement, notamment de l'incendie qui a eu lieu le 1er septembre là-bas. Alors, pour revenir un peu sur cet événement, en fait, donc samedi 1er septembre, à 21h, il y a eu un feu qui a été mis à des matelas dans la salle commune du centre de rétention. Et en fait, au moment où les retenus des autres blocs ont entendu crier au feu, ils se sont mis à empiler des matelas aussi à l'intérieur des salles communes. Mais bon, les pompiers sont arrivés assez rapidement, ont pu maîtriser l'incendie qui ne s'est pas propagé aux autres étages. Le bloc qui a pris feu est inutilisable du fait de cet incendie. Et les conséquences directes, en fait, c'est que les flics ont embarqué directement un retenu en garde à vue, un autre a été mis à l'isolement. Et du coup, les retenus qui étaient à l'étage qui a pris feu ont été redispersés dans les cellules des autres blocs. Et du coup, c'est une grosse surpopulation. Ils sont à 5 ou 6 dans des cellules qui sont prévues pour deux. Donc voilà, ça c'est un peu l'événement dont on a pu entendre le plus parler. Mais en fait, cet incendie, il arrive dans un contexte où il y a... Des grosses tensions au sein du centre. En fait, depuis cet été, il y a eu plein d'incidents qui se sont enchaînés. des résistances comme des refus d'embarquement, la destruction de matériel, enfin plusieurs résistances individuelles et collectives. Et du coup, nous, on va revenir un petit peu sur certains de ces événements un peu plus précisément.
Ouais, d'abord, je voulais revenir sur qu'est-ce que c'est que ce centre de rétention administrative de Marseille. Donc, un centre de rétention administrative, c'est ce qu'on pourrait appeler une prison pour étrangers, c'est-à-dire c'est un endroit où on enferme les personnes en situation de séjour irrégulière, comme on appelle, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas les bons papiers pour rester légalement sur le territoire français, en attendant de se faire expulser vers leur pays d'origine, généralement. Et en fait, ces centres de rétention, à la base, donc c'était le premier qui a été créé en France, c'était justement à Marseille, et c'était suite à la découverte d'une prison clandestine, donc où les flics enfermaient clandestinement des gens, justement des étrangers. Et du coup, se rendant compte de ça, le pouvoir socialiste arrivé au pouvoir en 1981 a trouvé ça vraiment scandaleux. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a légalisé cette prison clandestine et c'est devenu un centre de rétention. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire d'où sortent ces centres de rétention. Et voilà. Et donc, du coup, à Marseille, il y a quand même une histoire particulière autour de cette question-là des personnes migrantes. Et donc, pendant tout cet été, au centre de rétention du Canet, il y a eu plusieurs événements à l'intérieur et aussi à l'extérieur et en solidarité avec ce qui se passait dans ce centre. Et donc, on va revenir un peu sur certains événements marquants, entre autres. Quoi.
Alors, pour en citer que certains, on ne va pas refaire la chronologie date par date, parce qu'il y a à peu près chaque jour des choses qui se sont passées, soit des résistances, soit de la répression. Il y a eu beaucoup de refus d'embarquement lors d'expulsions des personnes. Il y a notamment eu à l'intérieur des destructions des interphones qui permettent aux matons de sonner les détenus et voilà, donc qui ont été détruits. Il y a eu pas mal de refus autour de la bouffe, de lutte autour de la bouffe, parce que il y a eu de la distribution de bouffe périmée. Il y a eu des téléphones portables qui ont réussi à être introduits pour essayer, comme on l'a dit un peu avant, de faire sortir des infos de ce qui se passe à l'intérieur, notamment pour dénoncer la répression qui a cours et qui est extrêmement forte. Il y a eu aussi une tentative de suicide. À l'extérieur, en fait, il y a eu des rassemblements de soutien. Donc le 7 et le 8 août, et des tirs de feu d'artifice. Deux personnes se sont fait attraper à ce moment-là et sont passées en procès le 8 septembre. Pour l'instant, on ne connaît pas l'issue du procès puisqu'il y a eu un report. Du côté de la répression, on peut voir que l'arme privilégiée des flics à l'intérieur, c'est la matraque électrique, qu'il est pratique courante à l'intérieur d'emmener des personnes une par une dans les pièces sans vidéosurveillance et de les passer à tabac. Il y a eu aussi dans les petites interdictions qui pèsent beaucoup, une interdiction de posséder des briquets, ce qui fait qu'à chaque fois qu'une personne veut s'allumer une clope, elle est obligée d'appeler des matons pour qu'ils viennent lui allumer sa clope. Et des retenues qui résistent aux expulsions sont ligotées et bâillonnées au scotch ou même gavées d'anxiolytiques. Donc voilà un peu pour passer rapidement sur tous les faits qui se passent. Beaucoup de résistance et énormément de répression de l'autre côté.
Et aussi pour dire que ces luttes à l'intérieur du centre de rétention du Canet à Marseille, elles trouvent aussi de l'écho à l'extérieur. Et notamment le 4 août, il s'est passé un truc qu'on avait envie de relayer, que donc ce jour-là, il y a des personnes qui étaient censées être expulsées en direction de la Tunisie par bateau. Et il y a des personnes solidaires à l'extérieur qui ont pénétré sur les quais où il y avait le bateau qui attendait, qui ont déployé une grande banderole avec marqué non aux expulsions, qui était visible depuis le bateau. Et il y a aussi un certain nombre de personnes qui sont montées sur le bateau et qui se sont mis à l'avant du bateau dans un endroit où c'était pas possible de faire démarrer le bateau, quoi. Qui sont restés pendant assez longtemps là et en disant au commandant de bord qu'ils refusaient de descendre tant que les personnes qui étaient censées être expulsées étaient à bord et que voilà, qu'elles redescendaient toutes ensemble ou sinon le bateau partait pas. Et que voilà, du coup, la situation a été tendue pendant longtemps. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est donc sur un bateau là qui appartenait à une compagnie tunisienne, en fait, légalement, ils étaient sur le territoire tunisien et pas sur le territoire français. Ce qui faisait que les flics français ne pouvaient pas intervenir. Du coup, c'était quand même une situation juridique un peu compliquée, mais les gens étaient hyper tendus. Donc, les flics qui étaient à quai étaient hyper tendus. Sur le bateau, il y avait aussi des flics tunisiens en civil. Et donc, il y a aussi malheureusement des passagers du bateau qui étaient vénères et qui voulaient embarquer le plus vite possible et partir. Et du coup, ça a été tendu entre les passagers et les personnes solidaires qui bloquaient le départ. Du coup, ces personnes ont fini par devoir partir par la force parce que voilà, elles se sont fait maltraiter par des flics en civil et par des passagers et par le commandant de bord. Du coup, elles sont descendues et donc les personnes se sont faites expulser. Donc ça, c'était un échec sur ce truc-là, mais on trouvait ça quand même assez classe, cet acte de solidarité d'aller bloquer un bateau dans le port de Marseille pour protester contre les expulsions.
Et puis il y a des fois où ça marche.
Et il y a des fois où ça marche.
Comme le 5 septembre. Bon, là, c'est pas un bateau. Mais du coup, un autre acte de solidarité, il y avait deux personnes qui devaient être expulsées vers l'Algérie par avion. Donc, il y avait une dizaine de personnes sur qui s'étaient donné rendez-vous à l'aéroport de Marignane. Ces personnes, elles étaient en contact en fait avec une des deux personnes qui devait être expulsée et donc qui avait demandé du soutien. Et donc, le petit rassemblement en fait explique dans la queue, dans la file d'embarquement, à toutes les personnes qui vont monter dans l'avion ce qui se passe, explique un peu la situation de la personne qu'elles connaissent et ont plutôt des bons retours dès le début, des personnes qui disent qu'elles vont réagir dans l'avion.
Et notamment, il y avait une personne qui allait embarquer dans l'avion qui avait déjà vécu par deux fois des refus d'embarquement et du coup qui se sentait hyper solidaire et qui disait que ouais, il n'y avait pas de souci, ils allaient une troisième fois refuser d'embarquer, quoi.
Et du coup, la personne qui avait appelé à du soutien a refusé d'embarquer. Donc c'était son premier refus d'embarquement, donc s'en est resté là. Tandis que l'autre personne est restée dans l'avion, mais là donc c'est bien les passagers qui avaient eu le temps de s'organiser en fait et qui se sont opposés à son expulsion. Donc le détenu a été redescendu de l'avion et donc les deux personnes n'ont pas pu être expulsées ce jour-là. Donc voilà. Une histoire de solidarité qui fonctionne.
Ouais. Et aussi dans les autres types d'actes de solidarité qui ont eu lieu autour de toute cette histoire. Donc le 9 septembre dernier, il y a eu un rassemblement du coup, devant le centre de rétention du Canet. Il y avait une centaine de personnes qui étaient présentes pour crier des slogans, pour essayer de se faire entendre à l'intérieur, pour montrer qu'elles n'étaient pas d'accord avec l'existence même de ces lieux d'enfermement. Elles sont restées une bonne heure devant les lieux et du coup c'était assez chouette et ça a permis notamment des échanges aussi avec l'intérieur. Et du coup là on va vous passer des interviews de personnes qui étaient emprisonnées dans le centre au moment de la manifestation et qui racontent un peu comment elles l'ont vécu et ce qui se passe généralement dans ce centre.
T'étais dans le centre pendant le rassemblement ?
Oui, je suis dans le centre dedans. Ouais. Pour dedans on a commencé à crier, on a tapé les portes, On a arraché les litiges, on a fait tout. On a arraché les chaises et tout, ils ont fixé les chaises par terre, par les volants.
Les chaises, elles sont fixées au sol.
Voilà, on a arraché ça, on a tapé nos portes, ils ont descendu la commandante, et nous calmer et tout, il m'a dit, Nathalie, je sers de vous, dehors, il ne faut pas se servir de dehors, parce que je sers de vous. Vous êtes ici, vous inquiétez parce que vous n'êtes pas dans l'hôtel et tout. Nous, au maximum, ici 45 jours. Vous ne suicidez pas, tatati, nanani. Si vous suicidez pour 45 jours, ça fait drôle. Votre mère, elle a besoin de vous encore. Votre parent, ils ont besoin de vous encore. Elle a commencé à se calmer, tu vois.
Qu'est-ce que vous pensez qu'il y ait des gens qui viennent devant le centre et qui font du bruit comme ça?
Ça fait de bien pour nous, on a senti bien. y a des gens qui, on a senti, il y a des gens qui pensent à nous dehors. On a senti, il y a des êtres humains dehors qui pensent encore à, aux autres. Oui, ça fait plaisir, on était contents, on est très contents. Voilà, ça fait 2 jours, ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé.
Pourquoi?
Aujourd'hui, ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé.
Pourquoi vous mangez pas?
Parce qu'il y a un collègue de nous, de détenu, il a frappé la police hier, avant-hier. Il a frappé un coup de poing, un coup de pied par terre, il était le mec, il était à poil. Et ce monsieur, il est à poil et tout, parce qu'il y a un policier qui a manqué de respect à lui. Il a dit, je t'ai un cul et tout. L'autre, il s'est mis à poil, il a levé ses habits. Il s'est levé dans la table, après le policier, ils ont tombé dessus, un coup de pied, un coup de poing, un coup de matraque. Et le reste, ils ont jeté le manger, ils ont fait la bagarre, ils ont combiné une porte. Voilà.
Ça, c'était quand?
Et ça, c'était hier.
Hier soir,
à 18h, ouais.
D'accord. Depuis, vous refusez de manger?
Ouais, on refuse de manger, ça fait 3 jours, ouais, d'aujourd'hui.
Ça
fait 3 jours d'aujourd'hui, ouais.
C'est une grève de la faim?
Ouais, on est grève de faim, ouais.
Ok.
Il y a plus de humains qui sont en train de manger. Un malade, il a le diabète, et il y a un vieux aussi, il a l'âge de 50, 60. Et lui, il mange, parce qu'ils n'arrivent pas. Mais nous, tous, on fait le grève de faim.
La grève de la faim, c'est juste dans un bloc? Ou c'est dans tout le centre?
La grève de la faim, on mange pas, ni on mange ni on boit.
Est-ce que c'est que dans un bloc ou c'est dans tout le centre?
Non, que dans le bloc où il y a l'embrouille. Aujourd'hui, il y a tout le centre qui n'a pas mangé.
Tout le centre entier?
Ouais, tout le centre. Aujourd'hui, ils n'ont pas mangé. Ce soir.
Est-ce que vous voulez faire la grève de la faim encore demain?
Oui. Oui, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ouais.
Ok.
Parce qu'Achour, il est venu, sa avocate aujourd'hui, il a déclaré la grève de faim au docteur, sa avocate, il a déclaré même la grève de faim devant la commandante.
Comment ça s'est passé pour vous, là, pendant le rassemblement?
Eh ouais, ils ont calmé parce qu'il y a vous, d'abord. Ils ont entendu vous pour quand ils partent, comme ça, ils viennent, ils le frappent, ils le poussent. Il est venu un policier noir à notre équipe, en costaud. Il le frappe, il le pousse, il frappe mon collègue, il entre dans le ventre. Les deux, ils ont fait halal là.
Ils
ont échangé à notre équipe, toute l'équipe, et il le frappe, il l'insulte. Et on mange comme le chien. Quand on monte, on mange un deuxième chien, nous. Et ouais, tous les jours, ça fait 3 jours là, tous les jours, ils font la misère, tous les jours. Tous les jours, on monte comme un chien, on dit ça comme un chien. Tous les jours, ou le soir avant de dormir, il vient, il fait halal. Je le parle, il t'a dit l'insulte. Après, il dit maintenant, il dit qu'il y a ici, vas-y, faire qu'est-ce que tu veux. Ça veut dire qu'il n'y a personne. Il y a dit qu'il y a qui nous, il veut.
Et pour les blessures, il faut que tous les gens qui ont des blessures, ils aillent demander au médecin de faire un constat.
On a fait ça aujourd'hui. Quand on a demandé le docteur pour faire le certificat médical, ils ont dit non.
Ah ouais?
Ils ont peur. On a fait le grave de la fin de la jusqu'à là. Hier, ils ont frappé pour de bon hier. La cuisine Hala hier, la vie de ma mère, il n'y a pas de caméra où on te voit l'image comment. C'est grave, je suis sûr.
Hier, ils ont vraiment frappé beaucoup des gens.
Beaucoup, moi et 2 collègues encore, l'autre mis à poil, ils ont mis à poil et ils traînent en bas, l'autre avec un coup de pied dans le visage, ils traînent dans le ventre là.
Voilà, donc c'était des témoignages de personnes retenues au centre de rétention administrative du Canet à Marseille qui ont été enregistrées donc, le 10 septembre, donc le lendemain d'une manifestation qu'il y avait devant ce centre et qui racontait un peu comment ça s'était passé à l'intérieur à ce moment-là. On continue sur ce centre de rétention de Marseille pour dire que à l'intérieur de ce centre de rétention, il y a une asso qui s'appelle Forum Réfugiés qui intervient sous des prétextes humanitaires et qui est censée donc aider les personnes à l'intérieur dans leur dossier et tout ça. Et en fait, cette asso, comme beaucoup d'assos soi-disant humanitaires, elle fait de la grosse merde. Et notamment, les personnes à l'intérieur disent que plutôt ça les aide pas du tout, au contraire. Puisque, par exemple, ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie avec quelques minutes de retard des dossiers importants pour que ce soit hors délai et que du coup les dossiers puissent pas être traités. Elle refuse de prendre les plaintes que les personnes veulent déposer contre les flics pour maltraitance, ou alors elle arrive et elle a pas de traducteur et que du coup les personnes peuvent pas s'exprimer. Enfin voilà, donc cette association qui contribue à la gestion de la misère et à l'emprisonnement des gens, c'est ce qu'on appelle des charognards de la machine à expulser, comme toutes les assos qui se font du beurre sur l'enfermement de personnes.
Maintenant, on va lire l'introduction d'une brochure qui a été faite sur tous ces événements qui se sont passés au CRA de Marseille.
Donc c'est une brochure qui peut se retrouver en ligne, notamment sur le site du Jura Libertaire et sur un autre site qui s'appelle Sans Papiers ni Frontières, que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet.
D'incident en incendie. Les incidents se succèdent dans la prison pour sans-papiers du Canet à Marseille. Refus d'embarquement, destruction de matériel, incendie, résistance individuelle et collective. Le centre est surpeuplé, les flics insultent et tabassent quotidiennement. Les retenus sont gavés de médicaments, les tentatives de suicide et les actes d'automutilation sont courants. Lorsqu'ils résistent aux expulsions, ils sont ligotés et bâillonnés au scotch. La bouffe est périmée, etc. La lutte à l'intérieur trouve un écho à l'extérieur. Prise de contact avec les retenus, relais de la situation, soutien juridique, opposition à des expulsions, parloir sauvage, rassemblement.
Si nous luttons aux côtés des retenus, ce n'est pas pour obtenir de meilleures conditions de rétention, mais pour détruire toutes les prisons. Si nous dénonçons les violences policières, ce n'est pas pour réclamer une police respectueuse des droits de l'homme. La fonction de la police, c'est de protéger la violence des intérêts des classes dominantes, c'est de défendre la violence de la propriété privée, d'empêcher toute tentative de révolte, de nous forcer par la peur et par la répression à accepter les règles d'un jeu truqué. La violence de ce système, nous la subissons tous les jours, et les gardiens de la paix sont les gardiens de la guerre sociale contre les pauvres.
Dans les rapports de domination et d'exploitation capitaliste, les sans-papiers sont utilisés par l'État patron pour faire baisser le prix de la main-d'œuvre et niveler vers le bas l'ensemble des conditions de travail. Les sans-papiers sont une population utilisée dans le but de normaliser et faire accepter les dispositifs de contrôle qui s'étendent à toutes les classes dominées. Rafles dans les quartiers, fichage systématique et international. Être solidaire des sans-papiers en lutte, c'est comprendre que nous avons les mêmes intérêts contre ce système qui nous domine et nous exploite. Être solidaire des sans-papiers en lutte, c'est se battre contre l'ensemble des dispositifs de contrôle et de répression que nous subissons. Être solidaire des sans-papiers en lutte, c'est lutter contre les séparations, celles qui font que les pauvres s'entretuent pendant que la domination s'étend.
Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les luttes dans et autour du centre de rétention de Marseille. Et on va enchaîner en parlant encore de luttes en prison, et cette fois au centre de détention de Bourg-en-Bresse.
En fait, c'est une triste nouvelle et grave, qui est celle d'un décès qui est survenu récemment au centre de détention de Bourg-en-Bresse. Donc c'est une information qu'on a trouvée à nouveau sur Rebellion, donc que je vais vous lire. Dans la nuit de dimanche à lundi 2 septembre, un détenu du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, M. Lavanchy, surnommé Papy, est mort d'une crise cardiaque. Dans l'après-midi, d'autres détenus l'ont vu, il tenait son cœur et disait qu'il avait mal. Il se plaignait depuis 2 jours de douleur au cœur. Quand il est allé à l'infirmerie, donc plus tôt avant, on lui a donné des efferalgans. D'autres prisonniers, très inquiets de son état, ont interpellé la surveillante qui était présente, en disant qu'il devait prévenir le brigadier pour que Papy soit soigné rapidement. La surveillante dit qu'elle a prévenu le brigadier, que celui-ci est allé voir le prisonnier et que, comme il était, entre guillemets, capable de parler, il a jugé que ce n'était, entre guillemets, pas grave. Papy était en cellule avec un autre prisonnier qui, en voyant son état dans la nuit, a tapé à la porte pour alerter les surveillants. Ceux-ci lui ont répondu que ce n'était pas la peine de taper, qu'il ne viendrait pas plus vite, entre guillemets. Le lendemain, l'information a circulé que Papy était mort dans la nuit. Il ne s'agit pas d'un décès accidentel. L'administration pénitentiaire, qu'il s'agisse des surveillants ou des soignants, ont été informés que son état de santé était grave, qu'il souffrait et qu'il était en danger. Ils ont choisi de le remettre en cellule, ils l'ont laissé crever, plutôt que d'appeler les pompiers, plutôt que de l'emmener à l'hôpital. Pour les vies détruites, les humiliations au quotidien, le temps volé, rendons les coups. Voilà, du coup, cette info qu'on a trouvé nous met bien en colère. On va essayer d'en savoir plus. On voit bien en fait tout le cynisme de comment les choses elles se sont passées et à quel point la vie d'un taulard elle pèse pas lourd. Du coup, on veut redire que la prison elle tue, qu'il s'agisse de morts que eux vont qualifier d'accidentelles, mais là quand on voit comment les choses elles se sont passées, on se rend bien compte que c'est pas un accident parce que dehors il aurait été soigné. Les morts c'est aussi ce que eux qualifient de suicide. Mais sauf que les suicides à l'intérieur, ça arrive 7 fois plus souvent que dehors. Y a aussi les morts qui sont qualifiées de suspectes. Quand on ne veut pas dire que les gens se sont fait assassiner par des matons. La prison, elle tue. Et quand elle ne tue pas, elle abîme de manière durable. Soit parce qu'elle laisse des traces qui mettent très longtemps à partir, qu'il s'agisse du corps ou de l'esprit. Et des traces qui sont là à plein de niveaux différents. Voilà, donc on va essayer de relayer les informations sur ce décès qui s'est passé récemment. On voulait rappeler qu'on avait entendu parler dernièrement du centre de détention de Bourg en Bresse parce que les surveillants faisaient les pauvres malheureux à pleurer sur leurs conditions de travail à la fin du mois de mai dernier en disant qu'il manquait de moyens de contrôle et de moyens de sécurité. On veut rappeler que le centre de Bourg-en-Bresse, il fait partie de ceux qui ont été construits dernièrement, comme celui de Roanne ou de Corba. Celui-là, il a été mis en fonctionnement en février 2010, c'est-à-dire qu'il est assez récent avec les moyens techniques qui vont avec. On avait parlé de ce centre de détention à Bourg-en-Bresse aussi par rapport à la situation de Samir Taffer, donc, qui est incarcéré là-bas. Sa situation, c'est celle de plein d'autres prisonniers. Quelqu'un en fait qui rentre pour 8 mois de tôle et qui, suite à des incidents, entre guillemets, c'est-à-dire des embrouilles avec des surveillants, au cours desquels les surveillants portent plainte, qui font qu'eux, ils se touchent des dommages et intérêts et que lui, il prend des mois. Et là, en l'occurrence, au bout du compte, ça fait des années parce que ça fait 40 mois d'enfermement en plus. Cette situation, elle est pas exceptionnelle. Et c'est la situation de beaucoup de personnes, en fait, qui à un moment donné pourraient être dehors en conditionnel. C'est sûr, avec des contraintes, mais quand même dehors. Et des gens qui se retrouvent à purger des années de prison sans fin, en fait. Des peines qui se rallongent au fil du temps. Du coup, ces différents exemples, ils nous font dire qu'à Bourg-en-Bresse, entre les prisonniers qui rentrent, qui se font mettre la misère, qui savent pas quand est-ce qu'ils vont ressortir, ou ceux qui ressortent jamais parce que les matons les laissent ou les font crever. Il y a encore une fois toutes les raisons d'avoir la haine contre la prison et contre ceux qui la font tourner. On voulait aussi relayer une autre information par le biais d'une lettre qui est sortie assez récemment, qui a été écrite par Jamel. Et lui, il parle des tortures qu'il a subies en juillet 2007. Quand il était à la prison de Salon de Provence. Donc en fait, c'est un petit montage qu'on va faire d'une lettre qui a été lue et dont on vous passe un extrait. Le voilà.
Voilà, alors c'est une lettre de Jamel qu'on a reçue dans la semaine et du coup qui raconte un peu ses mésaventures au centre de détention de Salon de Provence dans le sud. Alors, dans le centre de détention de Salon de Provence, j'ai été agressé par plusieurs surveillants qui m'ont roué de coups de partout sur le corps et étranglé avec un fil ou je ne sais pas. Je suis tombé dans les pommes. J'ai été déshabillé et jeté dans une cellule inondée. Toute la nuit, je tremblais de froid, aucun matelas. J'étais tout nu au mitard le lendemain matin. La cellule s'est ouverte avec d'autres surveillants qui m'ont roué de coups. Ils m'ont jeté dans un drap à l'aide d'un autre surveillant. Ils m'ont attaché avec du scotch les pieds et les mains. J'avais très mal et quand je criais de douleur, je recevais des claques et on me disait « ferme ta gueule ». J'étais en larmes, je croyais que j'allais mourir tellement on me maltraitait. J'ai demandé des habits, entre ouvriers les guillemets, « ferme ta gueule sinon on t'en met une ». D'un coup, on me dit « tu montes dans le camion ». J'ai refusé, je demandais à Dieu de m'aider. J'ai subi une telle atteinte à la dignité, le sexe à l'air devant tout le monde, femme comme homme. On m'a jeté dans le camion, nu tout le long de la route. J'étais terrifié, fatigué, j'avais besoin de boire car je n'avais pas bu depuis la veille, car comme je vous disais, j'étais dans une cellule hors service, je n'avais plus de robinetterie. Arrivé à Varennes-le-Grand, Au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, les surveillants sont restés choqués. Ils m'ont mis dans une pièce, ils ont appelé le chef de détention. J'ai vu qu'ils ont eu une discussion et que ça montait en pression. Vous dire exactement ce qui s'est dit, je ne sais pas, mais j'ai compris que c'est de moi dont ils parlaient. Le chef de détention m'a demandé ce qui s'est passé et il m'a signalé que j'avais une trace de strangulation au niveau du cou et des hématomes sur tout le corps. J'ai expliqué que c'est eux qui m'avaient frappé et séquestré. Ils m'ont fait des actes de barbarie, violemment frappé et humilié sur 3 jours. Le chef m'a dit de porter plainte et que les gendarmes venaient pour m'emmener à la gendarmerie. J'ai expliqué ce qui m'est arrivé et ils m'ont dit qu'on allait à l'hôpital car le ministère de la Justice a désigné un médecin pour une expertise corporelle. J'étais terrorisé. Le médecin était choqué quand je lui ai dit que c'était des surveillants. Il a pris plein de photos et les gendarmes m'ont ramené en détention. Pendant un mois, les détenus m'ont dit qu'ils m'ont vu dans un état comme mort. J'ai pu sortir de prison avec un bracelet électronique.
Voilà, donc c'était un extrait de cette lettre. Du coup, lui, il a porté plainte après par rapport à ce qui s'était passé. Et le jugement a eu lieu et ce qui a été rendu, c'était un non-lieu. Donc il a décidé de faire appel et la procédure, elle est en cours. Ce qu'on peut dire, c'est que ça fait des années et des années qu'il est en attente d'une reconnaissance par rapport aux actes de torture qu'il a subis de la part des surveillants. Et que ce que la justice, elle lui dit à présent, c'est que c'est comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. C'est ça qu'on peut comprendre avec ce non-lieu qui a été rendu. Et ce qu'on veut dire par rapport à ça, c'est que... on n'a pas spécialement d'espoir dans la justice, mais par contre on trouve que c'est important de faire circuler ces infos-là pour montrer c'est quoi le vrai visage de la prison, le vrai visage de la justice, et pour lutter contre. Voilà.
Nous allons donc passer un morceau de Scalpel et qui s'appelle « Résister, c'est vaincre ».
On pleure, mais les morts vivent à travers nous. Leurs exemples nous guident. Les poings sont levés, les corps restent debout, unis et solidaires. Rendez-vous pour une dernière étreinte. On fonce et on va de l'avant car résister c'est vaincre. J'écris pour que se maintienne intacte la mémoire des vaincus, pour que ne sombre pas dans l'oubli tant d'histoires vécues, pour que ce sang rouge aux idées noires n'ait pas coulé en vain. Ici pas de héros, juste des hommes et des femmes qui meurent l'arme à la main. 2009, on me pose la question de façon incendiaire. Est-ce pertinent de diffuser la pensée libertaire? Je réponds oui. Plus que jamais, l'action et l'idée combinée doivent répondre à la violence réactionnaire. Si tu te sens seul, inscris ta révolte dans les combats du présent. Étudie le passé, mais d'anticiper l'avenir pour mieux comprendre mon engagement. Loin d'un idéal pamphlétaire et de ses pensées moribondes, les poubelles de l'histoire imprègnent l'atmosphère d'une odeur nauséabonde. Si ça te gêne, tant mieux, habitue-toi. C'est le vent du changement, c'est la révolte qui gronde. Individualiste égaré, coupé de ce peuple qui te fait fantasmer. L'unique est en ma possession quand j'ai soif de liberté. Tu comprends pas, désolé, un télo. T'as pas d'excuses, retourne bouquiner. Ma musique, une dose d'adrénaline qui sert à booster les militants. Dans la rue, les squats, les locaux, les quartiers. Pour les étudiants, les prolos. Les clandestins planqués dans de petits appartements. Nostalgique d'une époque inconnue, d'une espérance étouffée dans la cohue. Résister c'est vaincre. Et face au tribunal de l'histoire, je suis ce condamné qui ne porte pas plainte. Emmuré vivant, sans chaîne et sans cadenas, je n'attends rien, je me réfère à mes lectures. La résignation est un suicide quotidien. J'implore ma mémoire qu'elle ne me quitte pas. Le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? J'assume ma condition modeste, mais ça veut pas dire que je l'accepte. Le seul complot que je connaisse s'appelle capitalisme et le bourreau n'est pas bête. Penser, analyser, calculer, ils se disent honnêtes. Donc responsable quand il s'agira de les fusiller pour notre bien-être. Radical quand il faut l'être, clandestin quand il s'agit de passer par la fenêtre. Demande à Angela si elle était préparée à l'aube. Quand il frappe à la porte, prends ton sac et démarre au galop. Inarrêtable, quand je ressens la rage d'un peuple dans des notes de musique. Quand l'âme transpire la révolte et prend un caractère tragique. Combien de pleurs, de larmes, de souffrances et de morts. Combien de coups de corps, de violences arbitraires, d'accusations à tort.
Voilà, donc c'est toujours l'émission Les Murons des Oreilles sur Radio Kaléidoscope. Et on va enchaîner en parlant donc de la circulaire Taubira. Donc Taubira, c'est la nouvelle ministre de la Justice du gouvernement socialiste qui a été élue en mai dernier. Et comme toute nouvelle ministre de la Justice, elle va émettre une circulaire prochainement qui va orienter la future politique de justice et notamment la politique pénitentiaire du gouvernement pour les 5 années à venir. Donc cette circulaire, elle n'est pas encore sortie, mais il y a déjà des versions de travail qui ont commencé à être diffusées sur le net. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que puisque c'est un nouveau gouvernement qui a été élu, il essaye de se démarquer du gouvernement précédent. Donc en matière pénitentiaire, c'est pas forcément évident. Et du coup, ce qui va être l'orientation de cette politique-là, donc selon les extraits qu'on a pu avoir, c'est de faire en sorte que la case-prison devienne une exception. Alors, comme ça, ça fait bien et ça pourrait nous enthousiasmer, sauf qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que la case-prison devient une exception. Ça veut dire qu'en fait, donc les peines de prison vont toujours être prononcées, mais en tenant en compte le fait qu'il y a de la surpopulation carcérale et du coup, en développant le plus possible de ce qu'on appelle des peines alternatives, donc des placements à domicile, des bracelets électroniques, ou par exemple multiplier les CEF pour les mineurs. Donc en fait, on met peut-être un petit peu moins de monde dans des prisons, dans des bâtiments prisons, mais en fait, il y a de plus en plus de monde qui est enfermé ou assigné à domicile dans son quotidien. Et du coup, en fait, c'est pas tant mettre moins de monde en prison, c'est surtout faire que la prison, en fait, elle soit partout dans notre quotidien et qu'on soit enfermé un peu partout dans la société. Donc voilà, c'est la future politique socialiste pour les 5 ans à venir.
On va passer aux brèves. Du coup, on commence par une brève qui vient d'Allemagne, puisqu'en fait, le 21 septembre va commencer le procès de Sonia et Christian. Sonia et Christian, pour rappel, en fait, ils ont été extradés de France le 14 septembre 2011, après plus de 30 ans d'exil, et ils sont poursuivis en Allemagne pour des actions des cellules révolutionnaires contre le nucléaire et contre la gentrification, et ça dans les années 70. Et du coup, suite à un mandat d'arrêt européen, ils avaient été livrés par la France pour être emprisonnés. Et ça fait maintenant un an. Et Sonia, qui est âgée de 79 ans, elle reste en tôle à Francfort. Christian, lui, il est gravement malade. Donc il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Et leur procès s'annonce hyper long, entre autres parce qu'il est organisé de manière à forcer Christian à comparaître malgré son état de santé. Donc voilà, il y a une manif de soutien qui est organisée donc le vendredi 21 septembre, le jour du début de leur procès, devant le tribunal, donc à Francfort, dès 8h.
On enchaîne pour relayer une action qui a eu donc samedi 15 septembre dernier. Donc c'est une information qui nous vient du Val-de-Suze. Donc le Val-de-Suze, c'est un endroit où il y a une forte lutte populaire depuis plusieurs années contre le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin. Et du coup, dans le cadre de cette lutte, donc il y a des personnes qui sont emprisonnées. Et donc notamment, il y a deux personnes qui sont emprisonnées à la prison de Alessandria di San Michele. Donc c'est à proximité de Turin. Et donc samedi dernier, il y a eu un rassemblement devant cette prison en solidarité avec ces personnes et pour affirmer que la lutte contre cette lutte, elle continue malgré la répression. Voilà, on n'a pas vraiment d'infos sur comment ça s'est passé, mais en tout cas, on veut bien, si vous en avez, les communiquer.
Après, on va donner une chouette brève qui est celle d'une belle. Donc, qui s'est passé à la prison de Lure, c'est en Haute-Saône, le 11 septembre. Enfin, non, que la presse relate le 11 septembre, donc c'était le jour d'avant. Donc, c'est un détenu de la maison d'arrêt qui est, au moment du repas du soir, qui est arrivé à s'extraire de sa cellule et à s'échapper. Il s'est retranché dans la buanderie où il a déclenché un incendie. Il a malheureusement ensuite été interpellé par les gendarmes. Il y a eu l'intervention des pompiers et comme l'incendie faisait beaucoup de fumée, l'ensemble des autres prisonniers ont été déplacés en cours de promenade et il y a eu une intervention des ERIS. Donc on n'en sait pas beaucoup plus parce que c'est les nouvelles officielles. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont malheureusement pu maîtriser l'incendie qui n'a pas fait brûler toute la prison et qui n'a pas permis de libérer tous les prisonniers, mais que c'était quand même une belle action qu'on salue.
Alors, une histoire d'évasion de la prison de Louvain. Donc, il y a un détenu qui s'est évadé, pareil, début septembre. Mais on n'en sait pas plus sur comment ça s'est passé, ni sur qui c'est.
En tout cas, ça fait toujours plaisir quand on voit que des détenus s'évadent. Et on va terminer par une dernière évasion, donc à Caen, une évasion qu'on pourrait appeler à l'ancienne. Donc, un détenu marseillais âgé de 26 ans qui a réussi à s'évader de la maison d'arrêt de Caen. L'alerte a été donnée à 14h30, donc le 2 septembre. Selon la presse, cette action s'est passée sans hélicoptère et sans commando. Il a suffi de deux échelles et de complices extérieurs pour qu'un Marseillais âgé de 26 ans se fasse la malle. Un scénario digne d'un film de gangster des années 50. Ses complices ont installé une première échelle à l'extérieur des murs de la prison et une deuxième à l'intérieur. Et voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Donc félicitations à toutes les personnes évadées, ça nous fait toujours plaisir.
En fait, c'est pas la dernière parce qu'il y en a encore une qui s'est passée à Montfavet. Décidément, le mois de septembre, c'est le mois des évasions et ça nous fait bien plaisir. Le 9, donc Montfavet, c'est un hôpital-prison. Et c'est quelqu'un qui était incarcéré à la prison du Pontet et qui était soigné depuis quelques jours à Montfavet et qui a réussi à s'évader et qui apparemment n'a toujours pas été retrouvé. On lui souhaite bonne chance et bon vent. Voilà, on va terminer là, cette émission. Donc on voudrait rappeler que donc la prochaine émission, d'une part, ce sera le 17 octobre parce que l'émission, elle passe une fois par mois. Donc le 17 octobre à 19h. C'est possible de retrouver les émissions précédentes et celle-ci sur un blog, si vous avez accès à Internet. Donc l'adresse, c'est http://, donc c'est les barres penchées là, les murs ont des oreilles, tout attaché, noblogs.org. Vous pouvez aussi nous contacter pour nous parler de ce qui se passe là où vous êtes, échanger des informations. Voire même réfléchir à ce qu'on pourrait faire ensemble, ça nous ferait très plaisir, n'hésitez pas. On a une adresse mail, donc c'est lesmurs@riseup.net, riseup.net. Vous pouvez aussi nous envoyer un courrier, on a une adresse postale, donc c'est Les Murs ont des oreilles, Radio Kaléidoscope, BP, boîte postale 422, 38 018, Grenoble, CEDEX. Voilà, et ben on va s'arrêter là. On vous souhaite bon courage et on vous dit à la prochaine.
Salut.